On sait finalement peu de choses d'André Gide. On sait qu'il fut un immense romancier, couronné d'ailleurs par le prix Nobel. On sait qu'il était protestant et homosexuel. Mais on ignore très souvent la surprenante précocité de son intelligence brillante et tourmentée et les rencontres qui l'ont nourri. Très tôt, il avait 18 ans, il se lia d'amitié avec d'immenses écrivains. Pierre Louis, puis Barrès, Mallarmé, Valéry, Oscar Wilde ensuite, et plus tard Francis James et des peintres, Maurice Denis entre autres, avec lequel il fit un livre. On ignore également son courage, l'audace de son retour de l'URSS, ou encore sa préface au tableau de la littérature française datant de 1939. Et l'on sous-estime sa générosité. Fondateur de la Nouvelle Revue française, il ne cessa de découvrir et d'aider de jeunes auteurs encore inconnus. Il fut un merveilleux révélateur de talents hors des sentiers battus. Les trois entretiens de la série avec Jean Amrouche datent de 1949. Gide avait alors 80 ans.
Comment trouver le ton qui convient pour parler de ce livre qui ne ressemble à aucun autre ? Qui en annonce plusieurs d'une veine analogue, ceux que vous avez appelés des sottis, ou d'un mode tout opposé, mais qui se suffit à lui-même, qui donne au sens plein de ce mot satisfaction. Car Palud vous prend, vous tient sous le charme, de la première à la dernière phrase. Au point que je n'ai peut-être pas de questions à poser à propos de Palud, il me semble que je ne peux pas m'en déprendre et que je n'ai qu'envie de le relire. Il faudrait peut-être parler de Palud en même temps que des nourritures terrestres, qui est, en quelque manière, son contraire, que vous écriviez à la même époque, ou que tout au moins vous portiez en vous. Est-ce bien exact cette simultanéité dans la composition des deux livres ?
Ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas tout à fait exact parce que quand j'écrivis Palud, je vais vous dire tout à l'heure dans quelles conditions matérielles, j'avais, pour ainsi dire, perdu de vue les nourritures terrestres, c'est-à-dire mises en réserve. Je ne pense pas avoir écrit, et peut-être pas une seule phrase des nourritures terrestres, pendant tout le temps, assez court d'ailleurs, que je consacrais à Palud. Je vais vous dire tout à l'heure quelles étaient ces conditions matérielles dans lesquelles j'écrivis ce livre qui me surprend encore moi-même assez aujourd'hui.
Je voudrais vous demander tout de suite si, au moment où vous écriviez Palud, et peut-être aussitôt après l'avoir écrit, vous avez éprouvé le sentiment d'avoir fait vraiment ce que vous vous proposiez de faire. Bref, je voudrais savoir dans quelle mesure Palud est un livre vraiment conscient.
Oui, je peux vous répondre très franchement. J'écris Palud avec une grande joie, un énorme amusement que je n'éprouvais par la suite. Que je n'éprouvais plus qu'en écrivant les cartes du Vatican, mais dans un état d'inconscience à peu près absolue. Il faut que je revienne un petit peu en arrière et que je vous invite à considérer que je revenais d'un premier voyage en Afrique du Nord où j'avais été très malade, très authentiquement malade, et, ou en tout cas où j'avais vécu dans avec une préoccupation constante de la mort. Je pensais que ma vie s'arrêtait là. Et j'ai parlé ensuite d'un secret de ressuscité que je rapportais de ce voyage. Bien, il y a de cela dans Palud, malgré tout, à l'état d'ironie. Il y a de cela aussi dans Les nourritures terrestres, qui est un livre de convalescent. Mais voici ce qui se passait. Je rentrais donc de l'Afrique du Nord, très mal guéri. J'eus recours aux soins et aux conseils d'un excellent docteur, ami de ma famille, le docteur Andrea de Genève, qui me trouva malade bien plus nerveusement, j'irais presque imaginairement, que réellement, et qui me conseilla d'aller passer un hiver à l'endroit des endroits les plus froids de Suisse, qu'on considère comme la Sibérie suisse, dans un petit coin du Jura, presque sur la frontière française.
À la Brévine.
À la Brévine même, où je suis retourné d'ailleurs l'an dernier, que je n'ai plus absolument pas reconnu. Mais je m'y installais et j'ai vécu là pendant, on ne peut pas dire combien de temps, mais enfin je crois 3 mois à peu près, dans un état de solitude parfaite, avec comme seul compagnon un piano que j'avais fait venir, je crois, de Genève, à grands frais. Et ce qui était, je peux dire, mon seul compagnon, car j'espérais d'abord, comptais un peu, on me l'avait fait prévoir, sur la société aimable d'un pasteur et d'un médecin. La vérité, je crois que je leur fis une première visite le jour, le lendemain de mon arrivée, mais ça ne donna absolument aucun résultat. Je vivais en parfait étranger, j'avais loué un tout petit, on ne peut même pas appeler ça un appartement, 2 pièces, dans une petite maison près d'un abreuvoir où les troupeaux venaient tous les matins boire, on les menait boire là à cet endroit, non loin d'un hôtel où j'allais prendre mes repas. C'est là que, dans un état de solitude totale, je me lançais dans ta lutte. J'étais certainement inconscient de ce que j'écrivais à ce moment-là.
Eh bien, ce livre que vous avez écrit, dites-vous, avec un grand amusement, cet amusement qui rejaillit maintenant sur ceux qui le lisent, à quel besoin, à quel désir répondait-il?
Ah, bien difficile de vous répondre. À aucun désir, à aucun besoin précis. C'était peut-être un besoin de prendre ironiquement le tragique même de ce que pouvait être ma destinée. Il m'était très difficile de me prendre au sérieux. C'est entendu, je vous l'ai dit, et très authentiquement, j'ai vécu avec l'idée constante de la mort. Ben, c'était pas très drôle, mais il s'y joignait aussitôt l'idée de dire, et puis après tout, quelle importance cela a-t-il? Et de là à verser dans une certaine ironie, ben, extrêmement rapide. Maintenant, il faut faire aussi très grande la part de ce que nous appelions, en plus de l'ironie, ce sentiment du saugrenu qui fit que tout palude, je crois l'avoir écrit quelque part, se cristallisa, si je peux dire, autour de 2 phrases qui furent les premières écrites de ce livre. Et je me souviens très bien du jour du petit carnet où je l'ai noté. J'hésite presque à les dire, tant elles peuvent paraître ridicules. Mais authentiquement, c'est autour de ces phrases que se groupèrent, que se forma le sens assez particulier d'un certain comique que je n'avais trouvé, il me semble, à peu près nulle part ailleurs. Je me souviens très bien, je retrouverai peut-être au besoin cette page d'un carnet où au crayon je notais simplement « Chemin bordé d'Aristoloche ». Mais ce nom d'Aristoloche faisait ma joie. Et voilà, expliquez cela comme vous pouvez. Il y eut une autre phrase que je m'en vais vous dire. Je crois pouvoir la citer exactement. C'est une phrase que j'applique au héros de Palude qui dit à Angèle « Pourquoi, cher ami, par un temps toujours incertain, n'avoir emporté qu'une ombrelle ?»« C'est un en tout cas, me dit-elle. » Voilà, une fois que j'ai dit cela, c'est autour de cela que, comme une dentelière qui fixe des épingles, c'est autour de cela que se tressèrent les fils du livre.
En somme, ces 2 phrases sont comme un thème musical autour duquel, sur lequel, l'ensemble de l'œuvre a été composée.
Elles m'ont donné le la.
Est-ce que parmi vos lectures, vous avez l'impression que quelque chose a pu vous initier dans l'usage de ce ton si particulier, dans ce mode particulier où est écrit Palude? Parce que j'ai beau chercher dans vos lectures, il ne me semble pas que vous ayez tellement pratiqué les ironistes français, particulièrement Voltaire. Et les seuls écrits, à ma connaissance, dont on pourrait peut-être un peu abusivement rapprocher Palude, parce qu'il ne s'y apparente que de très loin, ce sont des contes ou les récits philosophiques de Voltaire. Parce que Palude reste un récit philosophique.
Oui, je crois que... Il ne me serait pas venu à l'esprit de parler de Voltaire à ce sujet. Voltaire est spirituel, extraordinairement spirituel. Il n'y a pas d'esprit dans Palude. C'est quelque chose de très différent.
Il n'y a pas d'esprit, c'est vrai. Ou du moins, il y a un esprit tout à fait particulier. Vous dites, j'écrivis cette satire de quoi ? Bien sûr, c'est la satire de tout et c'est la satire de rien. Et c'est principalement, semble-t-il, la satire de l'auteur lui-même et du drame dont il est habité et dont ce livre marque à la fois la délivrance et la préoccupation, parce que profondément, on sent dans Palude un certain pathétique, ce pathétique qui coulera à plein bord, à plein courant dans les nourritures. Il y a peut-être aussi la réaction contre le milieu social que vous aviez laissé à Paris, contre les conventions, contre le confort, contre la stabilité de la bourgeoisie, tout ce qui donne à ce livre un peu le caractère d'un livre de luxe.
Oui, je crois qu'il ne faudrait pas chercher bien loin dans Palude pour y trouver un pathétique parallèle à l'ironie, mais un pathétique assez sanglotant.
Oui, vous évoquez quelque part dans Palude toutes les angoisses d'un poitrinaire dans une chambre trop étroite.
Oui.
Et il est difficile de ne pas penser à ce moment-là à celui qui écrivait Palude, non pas tel qu'il se montre dans le livre, mais tel qu'il était réellement...
Attendez un petit peu. Je songe tout à coup à quelque chose. Vous me parlez pour la littérature et je ne vois pas trop ce qui a pu m'influencer, me guider pour Palude. Mais je vais vous dire quelque chose que je ne crois pas avoir écrit. Quelque chose que vous connaissez peut-être. Il y a dans les, non pas les caprices, mais je crois ce que Goya appelle les proverbes de Goya, qui sont d'admirables planches, que j'avais, justement, j'avais pu me les procurer à un passage voyage en Espagne. Il y a une de ces planches qui représente, à mon avis, absolument le héros de Palude. C'est au milieu de la planche, pauvre intellectuel avec un front énorme qui se prend la tête dans les mains, qui ferme les yeux et qui est exaspéré par une quantité de personnes qui, alentour, viennent le tirer par la manche et viennent lui dire « mais, on pourrait dire aussi, et encore, et quoi qu'il en soit ». Eh bien, je crois que cela a été un point de départ de Palude.
Mais cela a donné, semble-t-il, alors la grande scène de la réception dans le salon d'Angèle, la réception
des littérateurs. Mais non seulement ça, mais la situation même du héros.
Vous avez fait du héros de Palude un personnage assez maladroit et un peu ridicule, ce personnage assiégé.
Assiégé, vous l'avez dit.
Et qui est intérieurement tellement supérieur à ces assiégeants qui semblent plus brillants dans la vie sociale. Ce personnage qui est décalé par rapport au milieu dans lequel il vit, à cause de ses relations de famille et de ses relations sociales, ce personnage me paraît, au fond, vous ressembler assez bien. Vous vous êtes souvent plaint d'avoir en quelque sorte l'esprit de l'escalier, de manquer de brillant dans la conversation, au contraire de certains de vos amis, et qui littéralement vous accablaient par le brillant de leur conversation, leur intelligence à facettes, leur art de la formule, de filer l'anecdote, etc.
Je crois que ce que vous dites est extrêmement exact. J'étais d'une extrême maladresse dans la conversation. Il en reste quelque chose dans cette angoisse que j'ai cherché à marquer dans ma vie. Mais je l'ai prouvé très souvent par la suite.
Le ton de Palude marque le triomphe sur l'angoisse. On le voit bien, tout à fait à la fin, où vous vous demandez. Ayant ouvert les fenêtres, j'ai vu qu'elles donnaient sur des cours ou sur d'autres salles voûtées, sur des cours misérables, sans soleil et sans air. Et qu'alors, ayant vu cela, par détresse, je criais de toutes mes forces. Seigneur, Seigneur, nous sommes terriblement enfermés. Là, sans doute, l'auteur de Palud, le héros de Palud, abandonne pour un instant le mode ironique sur lequel il reviendra. Il écrit en quelque sorte dans une autre clé, mais il écrit les mêmes choses. Où est la sagesse? Est-ce dans la résignation? Est-ce dans l'aventure? Et au fond, Palud ne conclut pas, et chacun d'entre nous, pouvant relire ce livre, peut rire de ses propres angoisses, de sa propre détresse, surtout lorsqu'il s'agit d'angoisses et de détresse qui sont le propre des adolescents, qui sont plus que tout autre en ce monde enfermés, terriblement enfermés. Palud leur ouvre une fenêtre.
Déjà, au moment où j'écrivais Palud, certains articles ont parlé de la peinture d'un adolescent. Vraiment, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir peint un adolescent dans Palud, mais un homme de n'importe quel âge, et plutôt un homme mûr. À côté du héros de la tentative amoureuse, par exemple, du Luc, ou des héros de la, du voyage urien, eh bien, ce héros de Palud n'a pas d'âge. Je ne le vois pas adolescent.
Je voudrais arriver à cette heure de nuit où tu auras successivement ouvert puis fermé bien des livres, cherchant dans chacun d'eux plus qu'il ne t'avait encore révélé. C'est bien à cette heure de nuit que nous ont trouvé, atteints, bouleversés vos nourritures terrestres. Je voudrais, s'il vous est possible, que vous nous disiez un peu comment les nourritures se sont lentement composées dans votre esprit et comment vous avez été amené à écrire ce livre.
Vous ne pouvez pas me poser de questions à laquelle il me soit plus difficile de répondre. Car vraiment, les nourritures se sont composées presque à mon insu. On trouve des phrases des nourritures dans une quantité de pages de journal que j'écrivais presque au hasard à cette époque. Vous devez le sentir. La composition même du livre a été très hasardeuse. J'ai tâché d'y apporter une composition par la suite. Mais vraiment, c'est un livre qui s'est écrit comme malgré moi. Il m'est très difficile de donner des précisions sur ce point. Je ne peux vraiment pas, ce serait absolument factice de ma part.
Il me paraît que cet ouvrage a un caractère encore plus singulier que celui-ci. Il est le livre d'un auteur que rien n'attache à un métier, autre que celui d'écrire. Aucun souci autre que l'essentiel souci de vivre, de tirer de soi et du monde toute la joie possible. C'est un livre de riche, et qu'un pauvre n'aurait pas pu écrire sans doute. Parce qu'un pauvre est forcément pris par les soucis de l'existence et la nécessité de gagner sa vie. Il est, peu ou prou, esclave de sa pauvreté et esclave de son métier. Et pourtant, ce livre est aussi un livre pour pauvres, car il donne aux pauvres le sentiment qu'il existe en eux-mêmes et dans la nature une richesse qui ne peut pas s'acquérir par l'argent. Et ce livre, d'ailleurs, ne prêche pas tant la profusion des sensations et des diverses formes de volupté. Il prêche surtout le dénuement. En définitive, c'est cela qui compte et c'est son message essentiel. Ainsi, Ménalque lui-même le dit. À chaque petit instant de ma vie, j'ai pu sentir en moi la totalité de mon bien. Il était fait, non par l'addition de beaucoup de choses particulières, mais par mon unique adoration, j'ai constamment tenu tout mon bien en tout mon pouvoir.
Je crois que ce que vous dites doit être exact. Aussi puis-je dire que les lettres que j'ai reçues au sujet de mes nourritures terrestres, par la suite, beaucoup plus tard, parmi ces lettres, celles qui m'ont, je dirais presque de beaucoup le plus touché, sont des lettres de convalescents, des lettres datées de sanatoriums, de malades, qui précisément ne pouvaient pas jouir de la vie, des lettres de gens dénués. Eh bien, cela m'a fait penser que mon livre avait atteint son but, grâce précisément à ce message que vous citiez tout à l'heure.
Mais ce message a-t-il été reçu dès la publication du livre en 1897?
Oui, si vous posez une question dont vous connaissez très bien la réponse. Vous savez que ce livre est tombé dans un silence général. Il y a eu quelques rares lecteurs qui n'ont même pas fait tache d'huile immédiatement. Ça n'est que longtemps après, 20-25 ans après, que tout d'un coup on s'est aperçu que le livre pouvait exister, avoir une valeur réelle. Et j'ai raconté quand il s'est agi de reprendre ce volume au Mercure de France, il n'y a même pas eu de compte. La Nouvelle Revue Française n'a pas eu à le racheter au Mercure. Valette, cet excellent Valette que j'aimais beaucoup, avec qui j'avais des relations tout amicales, et a plutôt dit merci, merci pour débarrasser ces rayons de ces invendus, ces invendables.
Quel rapport y a-t-il entre Ménalque, ce personnage de Ménalque qu'on retrouvera dans l'immoraliste, peu après, quel rapport y a-t-il entre Ménalque et vous, entre Ménalque et l'auteur des nourritures?
Oh. C'est assez difficile de vous le dire. On m'a demandé aussi quels étaient les rapports de Ménalque et d'Oscar Wilde. Certains ont voulu voir un portrait d'Oscar Wilde dans Ménalque. Tout ça n'est pas très exact. Il y a un peu de vrai. Il est certain que ce personnage de Ménalque est magnifié, idéalisé. C'est une figure un peu idéale, si je peux dire.
Mais vous prêtez à cette figure un petit peu idéale une philosophie qui n'est pas la vôtre.
Non, que je réprouve même par beaucoup de points, sur beaucoup de plans. Mais qui me paraissait bonne, me paraissait bon de l'introduire dans les nourritures terrestres, fût-ce pour m'y opposer à un certain degré. Car Ménalque, lui, est un riche, un fastueux. Et je dois dire que j'avais horreur du faste. Du faste, mettons, à la D'Annunzio, par exemple.
Oui, ce D'Annunzio que vous avez bien connu.
Oh, je l'ai fort bien connu.
Au cours de vos voyages en
Italie.
Oui,
parfaitement. Je l'ai vu même pendant une période de temps presque quotidiennement. C'était un être charmant, une force de séduction très grande, très flatteur, mais dont je me séparais, dont je m'étais très vite séparé.
Oui, on ne voit pas très bien d'ailleurs à distance quel rapport profond il pouvait y avoir.
Oh, il n'y en avait aucun, n'est-ce pas ?
Entre l'art de D'Annunzio, qui est tout d'extérieur, et le vôtre. La fameuse apostrophe de Ménalque, « Famille, je vous hais, foyer clos, porte refermée, possession jalouse du bonheur », a-t-elle provoqué le scandale que plus tard, Massis et son école ont largement étalé dans la presse et dans les livres?
Non, absolument pas. Cette phrase est passée complètement inaperçue d'abord, et elle n'a pris, comment dirais-je, son caractère provocateur que quand elle a été dépouillée de son contexte. Quand on supprime ce qui suit le famille je vous hais, foyer clos, porteur fermé, et c'est évidemment, ça prend un caractère provocateur et absolu que cela n'avait pas dans mon esprit. N'empêche que je suis fort content de l'avoir écrit, et je la maintiens.
L'on a en somme tronqué votre citation, parce que le famille « je vous hais » est précisément justifié par ce qui suit, et expliqué par ce qui suit. Ce n'est pas la famille en tant que telle, c'est la famille et la porte refermée, et les possessions jalouses du bonheur.
Absolument, et alors, c'est absolument juste. On est venu dire que je me plaignais, que j'avais à me plaindre de ma propre famille, ce qui est absolument faux. Je n'ai absolument eu qu'à me féliciter des miens, n'est-ce pas, qui ont toujours été parfaits pour moi. Je n'ai absolument pas eu personnellement à souffrir de ma famille. Je crois que dans les Faux-Monnayeurs, il y a certains passages sur cet égoïsme familial qui explique exactement ce que je voulais dire par ces mots, cette phrase.
En somme, la famille est haïssable dans la mesure où elle est une cellule, c'est le fameux régime cellulaire.
C'est la cellule sociale, avec tout l'égoïsme que cela comprend.
Quand on compare vos nourritures et vos notes de voyage, composées d'ailleurs à peu près à la même époque, on est frappé par une même préoccupation en ce qui concerne le style. Dans vos notes de voyage, l'on sent bien le désir de faire une espèce de transcription directe de la sensation vécue presque aussitôt qu'elle a été vécue. Et en somme, elle est à peine, la sensation se trouve à peine réfractée par la nécessité de lui donner un style. De sorte que, dans vos notes de voyage et aussi dans les nourritures, ce qui est assez intéressant, entre autres, c'est l'invasion de la littérature par la vie, et ceci est une notion toute nouvelle qui avait été en partie apportée par Barrès dans ses premiers livres, mais que, me semble-t-il, Barrès n'a pas réussi. Cette notion toute nouvelle, vous l'avez définie d'un mot, c'est la notion d'authenticité.
Je crois qu'en effet, c'est une chose très importante. Je crois qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de se rendre compte de ceci, à quel point la littérature était devenue chose factice, chose apprêtée, et se tenait en dehors de la réalité sociale d'une part, et de la réalité matérielle de l'autre. Il y avait le naturalisme, l'idéalisme, mais il n'y avait pas de commune mesure dans tout cela. Et ce que j'admire, ce que j'admirais, ce que j'admire encore dans la littérature grecque, par exemple, c'est à quel point ce n'est pas une littérature à côté, en dehors de la vie, c'est la vie même. Il est certain que quand j'écrivais mes nourritures, j'avais cette idée, cette prétention de replonger la littérature aux sources mêmes de son existence, dans la vie.
Oui, mais voici un problème d'esthétique assez difficile à résoudre, car on ne sort pas de la littérature, en définitive. Cette exaltation et ennoblissement de chaque instant, qui doit être vécu dans toute sa plénitude, comment parvenir à le faire passer dans les mots autrement qu'au moyen de la littérature?
Oui, je comprends votre question. J'ai peur que nous abordions là des problèmes bien difficiles et qui nous plongent à notre tour dans l'abstraction. J'aurais voulu profiter de ces petits entretiens avec vous pour dire des choses que je ne peux pas dire ailleurs. Par exemple, il me plairait, vous m'avez parlé de Barrès tout à l'heure, qui à ce moment-là jouait un rôle considérable dans la littérature. Je voyais autour de moi mes camarades, et en particulier ce Maurice Quillot à qui j'ai dédié mes nourritures terrestres, qui était non pas seulement un admirateur, mais un idolâtre de Barrès. Voyais autour de moi l'influence extraordinaire de Barrès. Je l'ai subi, moi aussi, en partie, quoique pourtant je me sois opposé à lui très vite, pour différentes raisons que je tâchais de dire ensuite. Mais je voudrais profiter de ces entretiens pour me raconter précisément quelque chose que je n'ai pas noté ailleurs dans mes relations avec Barrès. Barrès m'accueillit dès les cahiers d'André Walter, avec une bonne grâce charmante. Il avait une force de séduction dont on ne peut pas se rendre compte en voyant ses portraits. Il restait grave, d'aspect assez soucieux, mais avec ça, une force d'accueil extraordinaire, que je voudrais dire précisément. Je vais raconter quelque chose, quoi, je vais m'y décider, encore que ce soit une petite histoire qui ne me fasse guère honneur. Je la dirai tout de même. Je crois qu'il est facile de la situer, d'abord comme lieu. Barrès venait de se marier et de déménager. Il avait quitté l'atelier de Marie Baskertchev, rue Legendre, si je ne me trompe, près du parc Manceau, et était venu habiter. Tout ça est facile à vérifier, rue Caroline, je crois, au Batignolles. Il venait de se marier, il m'avait présenté à sa jeune femme, et très aimablement, l'un et l'autre m'invitèrent à déjeuner certains jours. Quand, facile de situer cela, mon traité du Narcisse venait de paraître. J'allais donc chez Barrès, il faut vous dire à ma décharge que ma gaucherie dans le monde était quelque chose d'inimaginable. Je vais en donner la preuve. Je fus tout interloqué, tout désarçonné, quand, entrant dans la salle à manger, où nous attendait le repas, je vis sur le milieu de la table une énorme coupe remplie de narcisses, ce qui était une attention charmante de la part de Barrès, et je fus tellement surpris de m'en interloquer que je ne trouvais au pied de la lettre rien à dire. Il eût été facile de marquer mon étonnement, ma joie, ma reconnaissance. Il lui suffit peut-être tout simplement de prendre un de ces narcisses et de le mettre à ma boutonnière. Cela lui suffit, Barrès, j'ai compris. Rien, absolument rien. J'agis comme si je n'avais pas remarqué cette coupe.
C'est attention.
Oui, attendez, le déjeuner alors s'est coulé. À quelques jours après, la semaine suivante, j'allais faire ce que l'on appelait dans ce temps, ce que mes parents m'avaient appelé une visite de digestion. Et quand j'entrais, c'était un petit hôtel qu'occupait Barrès. Il y avait deux ou trois étages. Quand je me présentais en bas, je fus reçu par un grand larbin en livrée. Et quand il entendit mon nom, que je prononçais, j'entendis, moi, la voix de Barrès penchée sur la rampe de l'escalier au deuxième étage, qui criait de cette voix extraordinaire. « Je viens de sortir il y a 5 minutes. » Le domestique me fit un sourire, je m'en allais et je crois que ce fut ma dernière visite à Barrès.
Oui, évidemment, vos rapports personnels avec Barrès, surtout maintenant que vous venez de raconter cette anecdote, vos rapports personnels avec Barrès ont dû, bien sûr, à bien des égards, vous irriter. Et plutôt le rapprochement qu'on a constamment fait entre votre œuvre et la sienne.
J'ai remarqué que ce que je rapporte là, il n'y avait pas du tout de quoi m'irriter, il y avait au contraire de quoi me charmer. J'aurais dû être marqué une grande reconnaissance pour ce témoignage, malgré toute sympathie que me marquait Barrès, en tout cas d'attention. Mais je sentis très vite à quel point nous n'adorions pas les mêmes dieux. Et nous différions profondément. J'en eus d'instinct le sentiment très net. Et je crois que ce fut très bien que nos relations de s'en tenir là, car ça n'aurait pas pu mener à grand-chose.
Oui, et chose curieuse, vous n'adoriez pas les mêmes dieux, et cependant, à bien des égards, je crois que vous avez eu les mêmes adorateurs, ou tout au moins, les mêmes adorateurs à propos d'une partie de l'œuvre de Barrès, la première partie de son œuvre, le Barrès anarchiste, le Barrès iconoclaste, le Barrès qui, après tout, a libéré beaucoup de jeunes gens des contraintes, des conventions. Et puis, par la suite, Barrès fut lui-même victime de son propre personnage. Il s'est, en quelque manière, mutilé volontairement lorsqu'il a voulu se raciner dans une doctrine politique et dans une métaphysique qui est la métaphysique de la terre et des morts.
Je crois que vous marquez là un point extrêmement intéressant dans Barrès, qu'il rend très attachant en dépit de tout ce qu'on peut penser plus tard. Il y a dans les cahiers qu'on a publiés certaines phrases très révélatrices à ce sujet, où on voit en effet une sorte d'angoisse de se demander, ai-je vraiment été dans mon sens, dans ma direction personnelle. Mais ça, c'est une sorte de Barrès secret que Barrès cachait aux yeux de tous. Il fallait savoir le découvrir. Eh bien, à ce moment-là, non seulement je ne suis pas le découvrir, mais je crois que Barrès aurait été très ennuyé qu'on le découvrit trop.
Et pourtant, dans Le mystère en pleine lumière et dans ces cahiers dont vous parlez, les aveux, ou plus exactement les affleurements de cette nature secrète de Barrès, mettons, si vous voulez, le Barrès décadent, le Barrès oriental, le Barrès poète et porté à la volupté. Ce Barrès qui nous a parlé d'une façon très intime, bien plus intime
que l'orateur, que l'homme politique, que le boulangiste, que l'homme des bastions de l'Est. Ce Barrès est peut-être celui qui vivra le plus longtemps.
Oui, encore autre chose. J'ai reçu avant-hier précisément ce... Qu'est-ce que c'est le gelé là avec moi. C'est le tome 12e des cahiers de Barrès. J'ai relevé une petite phrase, par exemple page 225, où je lis « En quelque mesure, je travaille en effet ». Et il se reprend pour dire d'une façon pathétique, à mon avis, « Je désirerais travailler au règne de Dieu ». Eh bien, ces petites phrases sont bouleversantes, proprement, me semble-t-il.
Oui, vous pensez que Barrès avait eu une très nettement conscience de s'être fourvoyé et qu'il n'a pas choisi, en somme, la meilleure part de lui-même.
On raconte qu'au moment de l'affaire Dreyfus, certains témoins oculaires racontent qu'il hésita beaucoup avant de se déclarer pour ou contre. Cela amena chez lui un état d'angoisse qui persista quelque temps, mais une fois qu'il fut résolu, il s'entêta dans son sens. Je ne suis pas certain que cet était le sens le meilleur.
Mais vous-même, puisque vous venez de parler de l'affaire Dreyfus, avez-vous pris position, aviez-vous été amené à prendre position à cette époque-là, à propos de l'affaire Dreyfus?
Très vite, et des tout premiers, pour cette raison que je connaissais assez intimement Léon Blum, qui avait été mon camarade de classe en classe de philosophie à Henri IV, et qui me tint au courant. Je nous revois encore descendant la rue du Bac à pied, et Blum me racontant l'affaire Zola, en me demandant justement si je consentais à prendre position, et je le fis aussitôt d'enthousiasme. Il n'y avait pas moyen de résister à cela. Mais c'était guidé par Léon Blum, à qui on... Je reconnaissais une probité très grande.
Votre amitié pour Léon Blum ne s'est jamais démentie. Il est encore aujourd'hui l'un de vos amis...
Écoutez, et c'est aujourd'hui, je crois vraiment, de sa génération, le seul qui reste. Et je dois dire que mon estime et ma sympathie pour lui n'ont fait que grandir. N'ont fait que grandir, surtout depuis le temps relativement récent du procès de Rion. Où vraiment, j'ai trouvé Blum... admirable, il n'y a pas d'autres mots qui conviennent. Mais notre intimité n'avait précédemment jamais été très vive.
À l'époque des nourritures, comme à l'époque de Palud, il a écrit sur ces deux livres.
Il a écrit certains articles remarquables, parmi les meilleurs qu'on ait écrits. Et je crois qu'il a été un des premiers à se rendre compte de la valeur de ces livres.
N'est-ce pas lui qui disait à propos des nourritures, ou peut-être à propos de Palud, qui avait écrit que l'un de ses livres jouerait, par rapport la vie des générations suivantes, un rôle de même importance que Werther, par exemple?
Oui, ce que j'avais trouvé très exagéré, modestement. Je crois que c'est dans ses nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann, c'est à propos de Palud qu'il disait cela. Et je fus fort surpris, car vraiment Palud avait passé... autant dire inaperçu des contemporains.
C'était une preuve de lucidité singulière sur le plan critique, et je pense que Léon Blum aujourd'hui doit être fort heureux que tout jeune critique de la Revue Blanche, je crois, il ait pu comprendre le sort extraordinaire que l'avenir réserverait à ces deux petits livres.
Nous n'avons jamais eu l'occasion d'en reparler. Mais j'espère qu'il en laisse aussi satisfait que j'ai pu l'être moi-même.
Nous n'avons peut-être pas suffisamment marqué au cours de ces entretiens à quel point votre vie a été conduite par la méditation et l'application d'un certain nombre de maximes de l'Évangile. De ces maximes qui vous plaisent particulièrement parce qu'elles contiennent à la fois une affirmation et sa contradiction, ou du moins les deux vérités opposées comme un couple indissolublement uni. Ainsi m'avez-vous dit un jour, ici même, c'est vrai, j'ai horreur du scandale. Et aussitôt, dans ma pensée, s'était réveillée cette maxime « Il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. » Et le scandale, vous l'avez provoqué plusieurs fois.
Je l'ai provoqué parce que j'ai cru devoir le provoquer. Vous citez d'abord « Il faut que le scandale arrive, mais malheur à qui le scandale arrive. » Je propose tout simplement de mettre en tête « Malheur à qui le, à celui par qui le scandale arrive, mais il faut que le scandale arrive. » Je sentais là une sorte d'obligation. Quand j'ai dit que j'avais horreur du scandale, je veux dire j'ai horreur du scandale inutile, de celui qui est simplement provoqué en vue de faire valoir son nom, de faire vendre des livres ou toute chose de ce genre. Mais j'estimais que... Il était indispensable pour moi de dire des choses que j'étais seul à pouvoir dire.
Mais ce faisant, vous pensiez bien que vous seriez accusé non seulement de provoquer le scandale, mais d'agir comme un véritable provocateur à l'égard des lois de la société et de la morale communément acceptées.
Écoutez, si vous pensez en particulier à un livre, Corridon, je dois dire que je le sentais tellement, justement, que j'ai diminué par tous les moyens possibles l'importance de ce scandale d'abord. J'ai publié ce livre presque clandestinement, à un très petit nombre d'exemplaires.
13, je crois.
13, parfaitement. Et ces 13, je me suis trouvé les avoir gardés dans un tiroir parce que je ne l'envoyais à peu près à personne. J'en ai peut-être distribué 5 exemplaires, j'ai gardé les autres. Et je me suis gardé d'envoyer ce livre à des critiques ou à des personnes susceptibles d'en parler, et d'en parler, j'entends, publiquement.
Je suppose que dans votre entourage et dans votre propre famille, on n'a pas manqué de faire pression sur vous pour vous empêcher de divulguer cet ouvrage.
Il y a eu non seulement une pression, je peux préciser, une pression par exemple de mon beau-frère qui était consterné par mon projet, et qui l'a retardé de toutes ses forces. C'est à cause de cela que, quittant, perdant de vue Corridon, j'ai écrit, qu'est-ce que c'était? C'était Isabelle que j'ai écrit.
Isabelle, oui.
Voilà, c'est le seul de mes livres qui ne soit pas né, je peux dire, spontanément de moi, et que j'ai écrit, non pas précisément par devoir, mais par diversion, si je peux dire. Il y eut ensuite une autre personne qui, sachant mon intention de publier ce livre, vint me trouver en me suppliant de n'en rien faire, c'était Marite.
Oui.
J'ai raconté dans mon journal la visite que me fit Maritain, me suppliant, n'est-ce pas, de ne pas publier ce livre. J'ai cru ne pas pouvoir, ne pas devoir tenir compte de son, comment appellerait ça, de son objurgation.
Mais est-ce que vous pensiez devoir publier ce livre, comment dirais-je, par l'effet d'une espèce d'obligation sociale pour jeter le poids de votre autorité dans une question très controversée, ou bien était-ce par devoir vis-à-vis de vous-même, pour être fidèle à votre vérité?
C'est extrêmement difficile de répondre, n'est-ce pas? Le sentiment social s'est développé peu à peu en moi. À ce moment-là, le mot de obligation morale conviendrait bien davantage. Autrement dit, répondrait davantage au besoin de ne pas me trahir moi-même. À ce moment-là, je pouvais me croire très... Y a-t-il de l'orgueil à dire cela? Je ne crois pas. Très particulièrement désigné par Dieu, n'est-ce pas, pour écrire ce livre.
Vous sentiez en vous
sentiez
comme
une obligation. Une mission, une obligation d'écrire cela, en me disant, pour ce livre en particulier, si ce n'est pas toi qui l'écris, qui l'écrira.
Il y a ceci, et il y a sans doute aussi l'horreur du mensonge dont vous avez parlé si souvent.
Que voulez-vous? J'ai beaucoup pensé, beaucoup discuté à propos de cet amour de la vérité. Et j'en suis arrivé à cette... C'est presque une conclusion. Nous avons beaucoup parlé de ces choses-là. De quoi, avec Mauriac, par exemple, ou d'autres. Je ne crois pas que ce sentiment de l'exigence, le besoin de la vérité, soit un sentiment très catholique.
Mais de la vérité à tout prix. Précisément, il faut que le scandale arrive.
Mais mettons, si vous voulez, la vérité à tout prix. Je crois que l'on croit communément que c'est un besoin tout humain de vérité. Je crois que c'est parfaitement faux. Je l'ai dit, je l'ai exprimé. Je crois que d'abord, les enfants ne l'ont pas du tout. C'est un sens qu'on a besoin de leur inculquer. Je crois qu'il y a des peuples entiers qui n'ont nullement le sens de la vérité, nullement le sens de la vérité historique et de la vérité scientifique.
Oui, mais j'ai relevé dans votre journal cette phrase, empruntée aussi au texte sacré. Un homme en qui l'on ne pouvait trouver de fraude. Et il me semble que cette phrase-là a dominé toute votre conduite durant votre existence. Le refus de frauder à l'égard de vous-même, le refus de vous donner pour ce que vous n'êtes pas, le refus d'être aimé ou d'être admiré à faux, et la volonté de vous montrer tel que vous êtes. Non pas de vous afficher, mais de vous montrer tel que vous êtes.
Non pas de m'afficher, mais de me montrer tel que je suis. Je crois qu'en effet, vous pouvez trouver cette notion-là dans l'Évangile, mais permettez-moi de vous dire que vous la trouvez également et aussi fortement exprimée dans Montaigne.
Oui. D'ailleurs,
il y a des phrases de Montaigne admirables où il dit précisément ce que je pensais, ce que j'ai répété. Je préfère ne pas être aimé qu'être aimé pour ce que je ne suis pas.
Mais la publication de Corydon ne vous a-t-elle pas séparé d'un certain nombre de vos amis?
Oui, évidemment. Il y a des amis qui se sont comportés à cet égard d'une façon que... Il ne suffit pas de dire que je n'ai pas pu l'approuver, mais enfin qui m'ont... Je les ai désapprouvés si violemment que j'ai presque rompu avec eux. Et c'est ce qui a amené, à un certain moment, d'ailleurs la vente de livres que j'ai fait de ma bibliothèque, ceux qui m'avaient comme renié.
C'était aux environs de 1924.
C'était immédiatement avant mon départ pour le Congo.
C'est cela.
À ce moment-là, on a pu beaucoup s'y méprendre. J'avais d'abord écrit une préface chez Champion, qui avait présidé à la vente de cette bibliothèque. Et j'avais écrit une préface donnant les raisons pour lesquelles tel de mes amis, n'est-ce pas, m'avait renié. Et Champion m'a dit, mais écoutez, c'est un massacre, enfin. Et il m'avait complètement changé ma préface. Je l'ai un peu regretté. Très souvent, la première intention est la meilleure. Mais et que voulez-vous? J'étais heureux, précisément, de donner dans ce catalogue non seulement la liste des livres que je me décidais à acheter à rue Drouot, mais aussi à publier les dédicaces. Il est évident que quand, par exemple, Henri Drégnier, par la suite, m'a refusé tout talent, on me parlait de cet auteur médiocre qui n'a jamais écrit des choses médiocres, bien, c'était en si parfaite contradiction avec ses dédicaces. Et que j'étais heureux de publier ces dédicaces, on pouvait juger.
Oui, on vous a reproché d'ailleurs de vendre les livres avec les dédicaces.
Mais comment donc pas... C'était à cause des dédicaces que je les vendais précisément.
Oui, vous n'avez pas fait ce que l'on fait d'habitude lorsqu'on lave des livres.
Ah, absolument.
On prend le soin de supprimer le nom du dédicataire.
C'est exactement le contraire que j'ai fait. J'ai publié ces livres, j'ai vendu ces livres, je vous dis, et inscrit ces livres au catalogue en vue de faire connaître les dédicaces.
N'a-t-on pas essayé par la suite de vous amener à désavouer Corydon?
Oh, je ne sais pas trop. Oui.
Ben, il...
Oui, peut-être, oui. En effet, mais ça, je n'ai pas tenu compte de cela, n'est-ce pas?
Vous n'en avez pas tenu compte et vous continuez d'accorder à ce livre une très grande importance.
Une importance capitale. Une importance très grande. Je crois que cette importance, on la reconnaîtra peu à peu. Ce livre, non seulement je ne regrette pas de l'avoir écrit, mais au moment où je l'écrivais, j'étais loin de me rendre compte, et c'est pourquoi je l'ai écrit d'une façon un peu timide et ironique, j'étais loin de me rendre compte de à quel point j'avais raison de l'écrire.
Le drame d'Oscar Wilde n'avait-il pas... avait-il pas incité à écrire le livre?
Oui, entre autres choses, n'est-ce pas? Oui, évidemment.
Et c'est par l'effet, par le même mouvement profond qui vous portait à écrire Corydon, que vous avez été amené à écrire et à publier vos mémoires, S'il graine meurt, de votre vivant.
Écoutez, je l'ai dit et je l'ai répété, je ne crois pas beaucoup, je ne crois pas aux écrits posthumes. Je m'explique là-dessus, je crois que très souvent, on trouve les amis et la famille d'excellentes raisons pour truquer, camoufler, blanchir le mort. Je voulais rendre impossible cette sorte de déformation de ma figure.
Oui, vous avez d'ailleurs reproché à certains traducteurs, c'est Bazalgette, je crois.
Bon, c'est Bazalgette, c'est extraordinaire, la trahison, n'est-ce pas, de Whitman.
Et vous ne vouliez donc pas être trahi par vos héritiers?
Écoutez, ces héritiers, je ne les connaissais pas encore, n'est-ce pas? Mais, évidemment, non seulement par mes héritiers, mais par mes amis plus tard. Je crains, je redoutais beaucoup, ce besoin d'en délire les figures d'un mort.
En somme, beaucoup de vos amis, ou de gens de votre tout proche entourage, de vos parents, vous ont reproché un excès de franchise, de hardiesse. N'y a-t-il pas au moins l'un de vos amis qui vous ait reproché exactement le contraire?
Précisez, je ne vois pas très bien à quoi vous faites allusion.
Mais je fais allusion particulièrement à Roger Martin Dugard.
Ah oui, oui, c'est une particulière considération pour Roger Martin Dugard, justement à ce point de vue.
Et Roger Martin Dugard est l'un des rares qui vous est au contraire encouragé à aller dans votre sens.
Permettez. Ici, je vous l'ai dit déjà dans les conversations précédentes, j'ai une mémoire extrêmement plus historique et chronologique. Est-ce que je connaissais déjà, c'est vous qui pouvez me le dire, n'est-ce pas? Est-ce que je connaissais déjà Roger Martin Dugard au moment de l'apparition de Corydon? Je ne crois pas.
Non, pas au moment... Si, si, déjà, au moins l'un de vos amis les plus intimes vous accompagnait dans cette entreprise et qui était à certains égards une épreuve parce que ce n'est tout de même pas sans difficulté et, permettez-moi de le dire, sans un grand courage que vous avez pu mener cette affaire à bien.
Vous savez, cette notion de courage, on peut ergoter beaucoup là-dessus.
Mais je ne veux pas ergoter là-dessus, oui. Mais vous avez noté vous-même, à propos du drame de l'immoraliste, ce fameux « il en coûte trop cher ».
Oui.
Mais il en coûte cher également.
J'avais pris à Montesquieu, n'est-ce pas, que j'avais trouvé admirable.
Mais il en coûte également cher dans la vie que d'accomplir certains actes importants, de certains actes exemplaires, oui. En sachant qu'ils seront non seulement désapprouvés, mais qu'ils feront souffrir des êtres chers.
Oui. N'insistez pas trop là-dessus, c'est un drame très pénible.
Ces entretiens ont été diffusés pour la première fois en octobre 1949.